Ma bouteille à l'océan. Chapitre 11. Je descends seul au village, tenue kaki de commando et sac US Army sur le dos. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué mon absence. Maïma, peut-être. Elle aurait sûrement aimé venir avec moi, mais Yann saura l'occuper. Tant mieux. Elle sera plus en sécurité au soleil redouté. Même si en me rendant seul au village, j'ai le sentiment que je ne crains rien. Il est 10 heures du matin. Le sentier longe la route. Des pick-up passent toutes les 30 secondes. Tous les commerces d'Atuona sont ouverts, c'est-à-dire un coiffeur, une pharmacie, une épicerie et un bureau de poste. Et je suis entouré de marquisiens qui vont et viennent comme chaque jour de la semaine, comme chaque semaine de l'année. Que peut-il m'arriver? Et surtout, je peux bien vous l'avouer, j'ai toujours rêvé d'enquêter ainsi, seul, telle une héroïne de roman qui va sans cesse se jeter dans la gueule du loup, mais qui finit par le capturer, ou, mieux encore, l'apprivoiser. Mon rêve de petite fille, devenir détective. Un double rêve de petite fille, devenir détective et en tirer un livre. Ma bouteille à l'océan, qui deviendra peut-être un roman fleuve, dont je ne dois négliger aucun méandre. Perdu dans mes réflexions, je manque de buter contre une racine, dit Languilang. Je me rattrape comme je peux à une branche. Des odeurs montent du village, mélange de santal, d'ananas sauvage et de pacalolo, le cannabis local. Elles incitent à nouveau mes pensées à papillonner. Pour tout vous dire, même sans ce rêve de petite fille et de livre, je serai tout de même obligé d'enquêter. Je n'ai pas le choix. Je dois me défendre. J'ai bien compris la façon dont Yann m'a fixé en arrivant au soleil redouté. Je sais reconnaître cette attitude-là chez un policier. Il ne m'a pas seulement regardé comme une suspecte. Il m'a regardé comme une coupable. Pourquoi ? Ma lente descente vers Atuona me laisse le temps d'ordonner mes idées. D'essayer, du moins. J'ai l'impression que des pistes partent dans tous les sens, un peu comme de l'unique rond-point d'Ivaoa avant l'aéroport, où se croisent presque toutes les routes et chemins de l'île, sans aucun panneau de signalisation. Où mène, par exemple, cette nouvelle direction, indiquée il y a quelques minutes par Maïma, ce jardinier voleur de perles? Peut-elle mener à Marie-Ambre? Elle tient sa fortune de son mari, le père de Maïma, l'un des plus riches cultivateurs de perles noires de Polynésie. Son parfum flottait dans la cabane du maire. C'est donc elle, et non Martine, qui était avec Pierre-Yves la nuit dernière. Parce qu'elle était sa maîtresse? Pourquoi une femme aussi riche et sexy qu'Ambre, et apparemment pas vraiment passionnée de littérature, coucherait-elle avec ce gros écrivain? Bon, admettons. Marie-Ambre et Pierre-Yves sont amants. Ils programment un rendez-vous nocturne. PYF avoue à Marie-Ambre une vérité cruelle, ils se disputent et paf, tout part en vrille. À partir de là, bifurcation. Deux possibilités de direction. La première, Marie-Ambre, dans un accès de colère, tue Pierre-Yves, puis Martine dans la foulée, car elle connaissait une partie de cette vérité. La seconde, Pierre-Yves et Marie-Ambre se disputent, puis se réconcilient une fois que Camaille le pêcheur s'est éloigné et décident ensemble de faire taire Martine. J'atteins les premières maisons du village. Quelques chats, aussi maigres que les marquisiens sont baraqués, dorment sous les fenêtres de la gendarmerie abandonnée. Pierre-Yves et Marie-Ambre, amants et complices. C'est la plus large de toutes les pistes. Une route bitumée, mais que je n'arrive pas à emprunter. Ce bel engrenage manque d'huile, sans le moindre début de mobile. Il y a autre chose. C'est Tiki ? Ces tatouages ? Face au bureau de poste, je croise deux amoureux occupés à s'embrasser sous un manguier. Lui est venu en scooter, elle à vélo. Aux Marquises, ce sont toujours les femmes qui font les efforts. Comme toutes les filles ici, elles portent de longs cheveux noirs, une fleur de tiare blanche sur l'oreille pour le contraste, et un joli petit ventre rebondi que son motard n'ose pas caresser en public. Deux amoureux. Je repense au testament de Martine. Revoir. Revoir une dernière fois le seul homme que j'ai aimé dans ma vie. Elle sera morte sans lui dire au revoir, sans le revoir. À moins d'imaginer que cet homme qu'elle a tant espéré soit revenu pour la tuer. Ridicule. Je me rends compte que j'échafaude toutes sortes de scénarios passionnels tordus. Est-ce pour éviter de regarder la vérité en face? Ma pitoyable vie sentimentale. Allez, Je dois enquêter et écrire un roman policier. Vous vous foutez de ma vie privée. Il sera bien temps de vous en parler plus tard. Je traverse le village. Je passe devant la barrière fermée et les volets clos de la gendarmerie, puis devant la porte ouverte de l'office du tourisme, dont l'employé n'a qu'une consigne. Ne donner aucune carte, aucun prospectus, aucun conseil, à l'exception d'un seul. Appeler un guide. Quelques mètres plus loin, près de l'unique roulotte du village, une voiture de location est imprudemment garée sous un cocotier. J'enregistre tout. Je réfléchis. J'ai décidé de laisser de côté pour le moment la piste des amants maudits, la blonde écervelée et l'écrivain de génie. Je referme aussi pour l'instant celle des cinq mystérieux tiki, pour me concentrer sur la seule qui, selon moi, est susceptible de tout expliquer. Le tatouage. Je dépasse le monument aux morts gardé par deux tikis roses sur lequel seuls deux noms sont gravés, un pour chaque grande guerre, histoire de bien rappeler qu'elle était mondiale. Je remue dans ma tête d'autres pièces du puzzle. Ces galets avec un Enata peint, le premier posé sur les vêtements de Pierre-Yves, le second sur le lit de Martine. Quel lien peut-il exister entre ces dessins et ceux tatoués sur le corps des deux victimes du tueur du 15e? Il y a 19 ans. J'arrive à un croisement. Quelques jeunes attendent, assis sur des chaises de plastique. L'un d'eux a sorti un ukulélé. Le magasin où je me rends, 50 mètres après, est planté au milieu d'un jardin blanc aux subtiles nuances de jasmin, de tiare et de frangipanier. Tattoo. Le tatoueur officiel d'Ivaoa, la seule boutique ouverte aux touristes, qui, pour repartir avec un joli souvenir des marquises gravées sur leur peau, devront se passer de baignade pendant une semaine. J'entre. Il n'y a pas foule de volontaires aujourd'hui. Je suis seul dans une petite pièce carrée, mélange de cabinet de dentiste et de salon de psy. Du moins, je l'imagine ainsi. D'un côté le médical, un lit haut, les dermographes en acier, les seringues, les compresses, les bocaux d'encre colorées et ceux qui sentent l'alcool à désinfecter. De l'autre, le subliminal. Les motifs marquisiens noirs peints partout sur les murs blancs. Les soleils, tortues, lézards, araignées, cornes de buffle, pointes de lance et toutes sortes de symboles ésotériques. Je cherche vainement les fameux Enata quand la porte du fond de la boutique s'ouvre.
Kawa, bonjour.
Je reste bouche bée.
Vous désirez ?
Je m'attendais à découvrir un tatoueur marquisien aux allures de kiné, copie conforme des colosses de 120 kilos qui conduisent leur 4x4 Toyota, aux bras comme des troncs de banyan. Je me retrouve face à un homme souriant d'1m80, élancé comme un pur sang et les muscles fins comme des lianes. Blouse blanche, sourire à la Dr House, yeux de chat, tatouage discret et élégant sous son crâne rasé et luisant. Un canon. Le genre mélanésien croisé avec ce qui se fait de mieux sur chaque île du Pacifique. Coolitude hawaïenne, élégance australienne, aura île de Pâquienne et virilité marquisienne. Je suis pris au dépourvu, quelle bécasse. Je suis auteur, j'insiste bêtement sur le « d'auteur, quelle fleur de nave. J'écris des récits de voyage. Je dois rédiger un chapitre sur l'art du tatouage, alors je me suis dit que… » Mr. Archipel continue de me dévisager de la tête aux pieds. Je regrette de ne pas m'être davantage habillé. Mon short me semble soudain un peu trop court, ma saharienne trop transparente. Je me persuade qu'en bon professionnel, il n'évalue ma peau nue que comme un vulgaire parchemin à noircir. Il passe devant moi, effluve de parfum gingembre, puis referme la porte de la boutique. Au verrou. Je prends peur d'un coup. Personne ne m'a vu entrer. Personne ne sait que je suis ici. Une conversation, des informations s'affichent en gros titres et défilent en bandeau dans mon cerveau, effaçant toute autre image. 2001. Paris. 15e arrondissement. Deux filles tatouées, violées et assassinées. Un tatoueur accusé, un certain Metani Kwaki, un type d'origine marquisienne qui a fini par s'évanouir dans la nature. J'essaye de calculer à toute vitesse quel âge peut avoir le tatoueur qui se tient devant moi. La quarantaine ? Sans un mot, il ferme le volet de la seule fenêtre. La pièce est plongée dans le noir, à l'exception de la lueur qui perce par la porte de la seconde salle, celle d'où le tatoueur à blouse blanche est sorti. la cinquantaine? Mes doigts, malgré moi, se crispent sur les graines rouges de mon collier, censées me protéger. Je sais que je devrais réagir en détective déterminé, avec l'assurance d'une professionnelle persuadée qu'elle va s'en sortir. Mais je n'arrive pas à résister à la panique qui s'empare de moi. D'une douce mais ferme pression de sa main dans le creux de mes reins, le tatoueur m'oblige à avancer vers la pièce d'à côté. L'obscurité déforme les traits de son visage, alors qu'il se tourne vers les dermographes, les scalpels, les pinces, les traditionnels peignes de nacre, dents de requin, écailles de tortue, battoirs d'ébène. Son masque de commerçant avenant s'est transformé en rictus de psychopathe contrarié. Mon cœur n'est plus qu'une pierre qui a cessé de rouler. Ma chair, un morceau de viande congelée. Ma peau, une épave de bois mort piquetée de milliers d'insectes suceurs d'écorce. Et si c'était lui, le tueur ?